Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui. Pour commencer, Uli va nous rappeler où nous en sommes dans le récit du livre de l'Exode. Uli, bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. Depuis un certain nombre de générations, le peuple d'Israël vit en Égypte, où il souffre de l'autorité tyrannique du Pharaon. L'esclavage, les travaux forcés et la brutalité sont son lot quotidien. C'est dans ce contexte que Dieu choisit Moïse et son frère Aaron, car il veut les utiliser pour libérer son peuple de l'oppression et le conduire vers la terre promise. Tous deux sont déjà allés voir le Pharaon pour lui demander de laisser le peuple partir. Or, le Pharaon s'est opposé à cette requête. À la place, il a aggravé la souffrance du peuple en lui imposant des travaux plus durs encore. Puis Dieu annonce à Moïse et à Aaron que pour faire plier le Pharaon à sa volonté, il va envoyer de terribles fléaux sur le pays d'Égypte. Aujourd'hui, nous réfléchirons sur le premier.
L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin, à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent, et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple. » pour qu'ils me rendent un culte dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, « Voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil, et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront, et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. » L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte, ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous ses réservoirs, et leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. » Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leur sortilège. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve.
Merci Emmanuel. Nous venons d'écouter une lecture du livre de l'Exode, au chapitre 7, les versets 14 à 24. Avant de parler davantage de ce premier fléau qui s'abattit sur le pays d'Égypte, Uli va nous aider à mieux comprendre la géographie et l'économie de ce pays. C'est ainsi que nous saisirons mieux toute l'importance de ce fléau et son sens spirituel.
L'Égypte occupe un immense territoire situé au nord-est du continent africain, la plupart de sa superficie contient du désert. Or, rien ne pousse dans les régions arides. Alors nous pouvons nous demander comment la civilisation égyptienne ancienne a-t-elle réussi à se développer dans un tel contexte? La réponse est que ce pays est traversé par un grand fleuve, le Nil. Le Nil représente une véritable source de vie pour ce pays. D'abord, il fournit l'eau, essentielle à la vie. Puis, lors des inondations printanières, ce fleuve dépose des alluvions sur ses berges, rendant la terre très fertile, ce qui permettait aux Égyptiens d'irriguer leur terrain, d'y faire pousser des cultures et d'y élever leurs troupeaux. Sans parler de l'industrie de la pêche, grâce au Nil, la production agricole suffisait à elle seule pour nourrir les populations vivant dans les grandes villes situées tout le long de ce fleuve. Oui, la réussite économique et culturelle de l'Égypte ancienne reposait essentiellement sur le fleuve du Nil.
Et c'est dans ce contexte que Moïse et Aaron arrivent. Moïse avertit le pharaon du fléau qui allait s'abattre sur l'Égypte. Puis Aaron étendit son bâton vers le Nil, et du coup, ce fleuve se changea en sang. À présent, Uli va nous expliquer si le fleuve s'est réellement changé en sang, et ensuite, quelles ont été les conséquences de ce fléau.
L'eau du Nil s'est-elle réellement transformée en sang? Il est impossible de le savoir. L'eau a peut-être tout simplement changé de couleur en devenant rouge vif, comme la couleur du sang. Quoi qu'il en soit, les leçons importantes à retenir sont celles-ci. Ce qui se passe ce jour-là est un acte purement divin. Dieu est intervenu et il a transformé l'eau du Nil. Par la bouche de Moïse, Dieu a averti le pharaon et à l'instant même où Aaron a étendu son bâton, la transformation a eu lieu. Ce jour-là, Dieu s'est fait connaître de façon extraordinaire à Pharaon et aux Égyptiens. L'eau du Nil a été changée et elle est devenue non potable, voire toxique. Les poissons vivant dans le fleuve sont morts et les Égyptiens ont été contraints de chercher de l'eau en creusant des trous dans la terre. Autrement dit, le Nil n'était plus source de vie, mais il apportait plutôt la mort. Les gens devaient s'inquiéter. Comment les cultures allaient-elles pousser si le Nil restait impur? Comment abreuver les troupeaux si le Nil était toxique? La vie de ces gens dépendait du Nil. Si le Nil ne fournissait plus l'eau pure, la civilisation égyptienne risquait de s'effondrer. Voilà l'enjeu de ce premier fléau.
Cependant, l'enjeu de ces événements n'est pas simplement économique, il est aussi spirituel. Uli nous explique pourquoi.
Les Égyptiens adoraient beaucoup d'idoles. Parmi les plus importantes se trouvaient le dieu Hapi et la déesse Anuket. Ces deux dieux, selon les Égyptiens, surveillaient et maîtrisaient le débit du Nil ainsi que les inondations. Autrement dit, selon les croyances des Égyptiens, ces dieux assuraient la prospérité de leur civilisation. C'est dans ce contexte que nous devons interpréter ce fléau envoyé par Dieu. Par la bouche de Moïse, Dieu dit au Pharaon « Tu sauras que je suis l'Éternel ». Autrement dit, Dieu allait se révéler d'une manière qui finirait par convaincre le Pharaon que c'est le Dieu d'Israël qui est le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant et le Dieu souverain. À travers ce premier fléau, où l'eau du Nil se change en sang, Dieu délivre un message redoutable à Pharaon. Le voici. Je suis le Tout-Puissant. Je suis capable de secouer et de balayer les fondations sur lesquelles votre civilisation est construite. Vous, l'homme le plus puissant du pays est totalement impuissant devant moi. De surcroît, vos dieux sont impuissants. Ils sont incapables de vous sauver. ils ne peuvent pas vous protéger quand la catastrophe frappe. Malheureusement, le pharaon s'obstina encore.
Merci, Uli. Lors de nos prochaines émissions, nous en apprendrons davantage sur les autres fléaux que les Égyptiens vont bientôt endurer. En attendant, Yann va nous faire part de quelques leçons pertinentes.
Le récit que nous avons écouté aujourd'hui nous fait part de leçons simples mais importantes sur la personne de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est souverain et il est redoutable. Pour toutes ces raisons, il est important de l'écouter. Il est essentiel de lui faire confiance et de ne pas s'opposer obstinément à lui. Dieu révèle sa toute-puissance et sa souveraineté sur sa création. En un instant, l'eau du Nil se change en sang. Incontestablement, cet acte est divin. Dieu avait dit qu'il le ferait, et cela arriva. Dieu maîtrise les éléments naturels, et il peut s'en servir pour accomplir ses propres desseins. Dieu révèle sa toute-puissance et sa souveraineté sur les civilisations. En un instant, il a secoué les fondations de la réussite économique et culturelle de toute la civilisation égyptienne. La prospérité de toute civilisation dépend de la grâce de Dieu. Et il est capable de briser toute civilisation s'il estime qu'elle s'enfonce dans son orgueil et s'oppose à lui. Dieu révèle sa toute-puissance et sa souveraineté sur les hommes politiques puissants. Le pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte, résiste obstinément à la volonté de Dieu. Mais sa résistance n'a pas duré. Dieu allait triompher. Il lui prouvait que personne ne peut faire obstacle à l'accomplissement de ses desseins. Enfin, Dieu révèle sa toute-puissance et sa souveraineté. Il est supérieur aux idoles, aux esprits et aux puissances spirituelles maléfiques. Ce premier fléau a révélé que les soi-disant dieux du Nil, Hapi et Anuket, sont sans force et incapables d'agir devant la puissance du Dieu souverain. Encore de nos jours, Dieu demeure celui qui est tout-puissant. Il exerce son règne souverain sur la création et la nature, sur le monde politique, ainsi que sur les êtres spirituels et les puissances maléfiques. Ces vérités peuvent encourager le croyant et fortifier sa foi. Dieu est digne de confiance. Il accomplit ses promesses et personne ne peut s'opposer à sa volonté.
Merci Yann pour cette exhortation.
Nous serons de retour la prochaine fois pour poursuivre notre étude sur le livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.